Salut, c'est Champ Libre. Bah écoutez, j'espère que vous êtes resté au chaud chez vous et que, ou dans votre voiture, hein, vous faites comme vous voulez. Et que vous allez écouter ce chant libre, parce qu'avec le vent, c'est pas le vent du changement là qui souffle, c'est un vent plutôt frais. Vous êtes dans Chant Libre numéro 652, le temps passe vite, un chant libre mensuel, troisième mercredi du mois. C'est ce qu'on appelle le chant libre mensuel pour les nouveaux. Et dans le chant libre mensuel, en général, j'ai des invités. Damien qui nous présente de la musique métallique, en principe. Et puis, un déserteur qui s'appelle Joe, on peut le citer, et qui, lui, normalement, vient nous parler de cinéma ou de DVD. Donc aujourd'hui, pas de Joe, il était parti avec les cloches avant Pâques et il a oublié de revenir. Et donc, du coup, on lui pique sa place et avec Damien, on parlera un petit peu plus de musique métallique. Hein? Alors, métal ou lourd? On en reparle tout à l'heure.
Le débat est ouvert.
On va démarrer tout de suite ce chant libre numéro 652 avec un nouvel album qui n'est pas métallique, celui-ci. C'est le nouvel album de Wire, les post-punk bien connus des fans de l'émission. Wire, chaque année, c'est réglé comme une horloge, propose un nouvel album. Celui-ci s'appelle Silver/Lead. Pour ceux qui ont connu les cassettes audio, c'était quelque chose qui était écrit sur les cassettes. Ça indiquait la qualité du dépôt de métal qui était fait sur la bande. Voilà, en tout cas, là, c'est bien un CD, Silver/Lead. C'est le groupe Wire, le premier titre que tu vas traduire, Damien, Short Elevated Period.
Période pelée.
Ouais, je pense que il parle plutôt de période en matière d'électricité ou de scintillement physique.
Voilà. Ça fait sens, mais je ne m'y connais pas trop en cassette, j'avoue.
Non, c'était pour savoir si tu avais révisé ta physique.
En littéraire.
Facile. On écoute ce titre du nouvel album de Wire. Scouring the skiff in the typhoon season, hoping to change in need of my hands. No longer confused by mine, no reason in the endings. I got the moves. The passenger matches the price. He's asking, embracing the button. He now understands. It's a pivotal moment in the uncertain future of painting his deal done. Franklin Express. Wire, nouvel album intitulé Silver / Bar Division Lead. Très bon disque, vous êtes toujours dans Champ Libre et dans Champ Libre du troisième mercredi du mois, on parle de rock, on écoute du rock et on lira du rock également en fin d'émission. Et en parlant de lecture, Damien, je feuilletais tout à l'heure une revue mensuelle qu'on aime bien puisqu'elle parle de rock et de folk. Et le chapeau d'un des articles de ce mois-ci nous raconte la difficulté qu'on a, nous, et qu'ils ont peut-être, eux, les musiciens, à vivre avec le temps qui passe. Alors, le rock, ça date pas d'aujourd'hui et du coup, la plupart des émissions, des numéros de Champs Libres sont des numéros dans lesquels on parle de nouveaux mais également d'anciens, et puis on parle de plus en plus de disparition des anciens, soit parce qu'ils abandonnent, soit parce qu'ils décèdent.
Bien souvent parce qu'ils décèdent.
Un petit peu plus radical. Alors je lisais donc le chapeau de cet article de Rock & Folk qui dit que, toute petite phrase, il manque les pages, c'est comme si on avait un livre dans lequel il manque les pages de fin du code de vie des rockers du XXe siècle que la maladie ou un accident à la con n'a pas encore chopé. Alors, il y en a qui disent la décence devrait les inciter à quitter la scène. T'as vu, ils sont vieux, ils ont la voix bizarre. Regarde, il y en a Cohen et Bob Dylan. Donc, il devrait plutôt prendre le chemin vers le cimetière, sauf que le cimetière de ces éléphants-là est mal indiqué. Alors, pourquoi je te raconte tout ça, Damien, toi qui es tout jeune.
Et qui lui rock et folk.
Pourquoi je te raconte tout ça? Tout simplement parce que dans les dinosaures de la musique métallique ou hard, on pourrait discuter longuement, il y en a deux qui annoncent leur départ. Je pense à Black Sabbath, dont on parlera tout à l'heure.
Ouais.
Et puis un autre, alors je ne sais pas s'ils annoncent leur départ ou pas, il s'agit de Deep Purple. Et puis tu me disais tout à l'heure, il y en a d'autres.
Oui, bien sûr, il y a Aerosmith qui va faire sa dernière date française au Hellfest cet été. Il y a Motley Crue qui a abandonné. Oui, il y a quand même une série de départs à la retraite dans le métal qui commence à s'allonger.
Alors, pour moi qui suis un tout petit peu plus ancien, cette musique qu'on appelait hard au début, on s'étripe depuis des années pour qui a écrit le premier morceau hard. On s'en fiche un petit peu. Est-ce que c'est Yuril Gotmi des Kings, Helter Skelter des Beatles ou je sais pas quoi. En tout cas, pour avoir vécu les choses à l'époque où c'est arrivé, la première grande claque qu'on s'est pris, bien plus que celle de Led Zepp, c'était la claque Deep Purple. Un truc qui brûlait, y compris le matériel d'ailleurs, sur scène. Et Deep Purple annonce d'abord la sortie d'un nouvel album qui s'appelle Infinite. Et puis également une tournée qui s'appelle The Long Goodbye Tour. Alors Goodbye Tour, on sait ce que ça veut dire, tournée d'adieu, mais Long Goodbye Tour, ça peut être la tournée d'adieu des Compagnons de la Chanson qui a duré 20 ans ou celle de Bob Dylan qui dure déjà depuis un petit bout de temps. On situe rapidement Deep Purple. Damien, il y a eu plusieurs périodes chez Deep Purple. C'est un peu la même histoire avec Black Sabbath. Première période, Deep Purple, c'est un groupe qui qui fait un rock plutôt classique avec du clavier. Et il rêve même d'écrire, je pense à l'organiste en particulier, John Lord, qui nous a quittés il y a quelque temps. Il rêve d'écrire des grands morceaux avec orchestre, concerto, etc., ce qu'ils feront. Donc ça, c'est la première période. Et puis, il y a une deuxième période qui démarre en 69-70, dans laquelle on voit arriver un chanteur qui s'appelle Ian Gillan
Gillan.
et un bassiste qui s'appelle Roger Glover, qui vont rejoindre donc Ritchie Blackmore à la guitare, Ian Paice qui joue de la batterie, et ils vont enregistrer coup sur coup en quelques années trois albums qui vont nous défriser complètement. Le premier s'appelle In Rock, avec pratiquement que des tubes à l'intérieur. Le deuxième s'appellera Fireball. Et le troisième, que tu adores, Damien, s'appelle Machine Head, avec le fameux Smoke on the Water à l'intérieur. En tout cas, ça, c'est la pierre angulaire du hard rock à l'époque. Ensuite, ce groupe va subir des tas de changements dans sa constitution, puisque il y en a un, Blackmore, qui a un sale caractère, même s'il est bon guitariste. Donc régulièrement, il y en a qui vont, qui viennent. On va avoir des périodes de creux chez Deep Purple, c'est-à-dire pas de succès du tout. Deep Purple existe encore. Il y a eu une remontée du succès au milieu des années 80 à peu près, avec une nouvelle formation donc, qui tourne encore. Il y a trois membres originaux, je crois, dans cette formation-là, plus un Américain, Steve Morse, qui joue de la guitare. Voilà, moi j'ai été marqué par la première période de Deep Purple. Je les ai vus alors j'ai retrouvé la date, le 25 octobre 1970, au Théâtre du 8e à Lyon, avec en première partie un groupe qui s'appelait Transition et qui était en fait Magma, allégé de quelques musiciens pour ceux qui connaissent. Et effectivement, j'avais du mal à me remettre de la chose. Toi, je crois que Damien, t'es pas un très grand fan du Purple,
Mais disons que
qui est arrivé un peu après.
Ouais, déjà il y a ça. Puis le souvenir que j'en ai au Hellfest, c'est celui d'un groupe qui doit jouer 50 minutes, qui se pointe 10 minutes en retard et qui repart 10 minutes en avance, juste le temps de balancer un Smoke on the Water et un Child in Time un peu en pilote automatique. Donc c'est vrai que c'est pas forcément un souvenir qui marque. Voilà.
Alors, il semblerait, je lisais des extraits de biographies ou de concerts et tout, ils aiment bien se faire attendre, hein, des Purple, pour monter
Ouais,
sur
mais des
scène,
fois,
pour
se
monter
faire
la
attendre, c'est
pression.
bien, mais faut pas décevoir après, quoi.
Alors, on ne sera pas déçu si on ressort de sa pochette le vieux Deep Purple in Rock de derrière les fagots. Alors, ils ont cartonné cette année-là avec un tube qui est sorti uniquement en single, qui s'appelle Black Knight. Dans Deep Purple in Rock, peut-être dans les rééditions CD, on a rajouté le Black Knight. En tout cas, dans le vinyle original, il n'y avait que sept titres, avec le fameux Sweet Child in Time, qui dure une bonne dizaine de minutes et
Oui,
qui
ça fait ça, ouais.
trop long pour cette émission. Donc j'ai choisi un titre court, mais que j'aime beaucoup et qui dépotait sacrément sur scène. C'est le fameux Into the Fire, Deep Purple, 1970.
Openers this week come from the highest placed British group in the charts at the moment, Deep Purple. With material from their world smash album, Deep Purple, live Into the Fire.
Things that don't appeal to you. See the
Into the Fire, Deep Purple. Tu as noté, Damien, enregistré live
à la BBC.
À la BBC. On parlait de Deep Purple, on va parler de Black Sabbath. Alors, moi, j'ai un petit peu tendance à associer les deux, puisque systématiquement, lorsqu'on parle des groupes les plus marquants, fondateurs de cette musique hard, il y a ces deux noms-là qui arrivent. Alors, je ne sais pas s'il y a des rivalités. Mais en tout cas, petit rappel historique. En 69, il y a un groupe qui s'appelle Polka Talk, c'est pas génial. Puis Earth, c'est mieux, qui décide finalement de changer de nom et de s'appeler Black Sabbath.
Le sabbat
c'est quand même mieux. Alors, il paraît que c'est tiré d'une nouvelle de Dennis Whitley, auteur américain. En 70, premier album de Black Sabbath, 1 million de disques vendus, même si la critique démolit le groupe. La même année, ils sortent un tube et un album,
Paranoid,
qui s'écoule à 4 millions d'exemplaires aux USA seulement. Il faudrait comparer avec les ventes d'albums d'aujourd'hui. 8 albums vont sortir entre 70 et 78. Après Black Sabbath et Paranoid, on a eu Master of Reality, Black Sabbath 4, Black Sabbath, Bloody Sabbath. Et cet album, Sabbath, Bloody Sabbath, de 73, c'est le premier album du groupe dans lequel on entend un clavier. Et je pense que ça va t'amuser, ainsi que tous les fans de rock progressif, puisque le clavier est tenu par Rick Wakeman de Yes. Le groupe que tous les musiciens de punk, de metal, etc. honnissaient à l'époque. Comme quoi. Et à cette époque-là, 75, ça coince un peu parce que le chanteur Ozzy Osbourne s'oppose à cette technique-là. Tu me disais en aparté tout à l'heure qu'il n'y a pas que ça.
Il y a aussi quelques problèmes de drogue, il faut avouer.
Voilà,
quand même.
Donc voilà, il se casse. Hein, donc exit Ozzy Osbourne. Il va être, c'est un véritable feuilleton télé, hein, l'histoire de Black Sabbath. Il est remplacé par monsieur
Ronnie James Dio.
Ronnie James Dio. Qui vient du groupe Rainbow. Ils enregistrent Heaven and Hell en 80, qui est plutôt pas mal comme album, même si je suis plutôt Sabbath tendance Ozzy. Et ça foire aussi. En 83, il s'en va, le père Ronnie, et il est remplacé par Ian Gillan, ex Deep Purple. Tiens donc. En 86.
Pour un album qui finalement s'en sort plutôt pas mal, chacun à mal dire, c'est un album dont on parle rarement, mais qui est pas mauvais.
Born Again.
Ouais, c'est ça tient pas la comparaison par rapport à Ronnie James Dio ou Ozzy Osbourne, mais ça aurait pu être un rattache complet et c'est pas si mal.
Eh ben écoute, en tout cas ça dure pas longtemps puisque tout le monde s'en va, il reste plus que Tommy Iommi, le guitariste qui n'a pas tous ses doigts, enfin il lui manque des bouts de doigts. Tommy Iommi qui d'ailleurs a commencé avec un groupe qui s'appelait Jethro Tull.
C'est vrai.
Si vous avez l'occasion de voir le film Rock'n'Roll Circus des Stones, cette émission de télé qui existe en DVD, Jethro Tull fait l'ouverture du spectacle et on voit bien le père Tommy à la guitare. En 70, concert de réunion du line-up original pour un album qui s'appelle Réunion.
C'est tout simple.
Qui marche bien. Et puis, le grand retour du Sabbath en 2013 avec l'album
13.
Voilà. Alors, eux, ils ont dit qu'ils arrêtaient.
Oui, ils ont arrêté. Le dernier concert, c'était il y a un mois et demi à peu près. Concert d'ailleurs qui a été mis ensuite sur Facebook, qui est assez décevant. Finalement, le groupe salue, il y a un feu d'artifice, et c'est tout. On espérait un départ en grande pompe, et finalement, ça a été assez sobre. Mais je trouve que dans l'ensemble, ça reste une bonne carrière, et je pense que c'était le moment d'arrêter. Après, ça aurait peut-être été indécent.
Ouais, il a un petit peu du mal, hein, le Ozzy, sur scène.
Oui, c'est surtout Ozzy, finalement, le problème. Avec,
quand il se déplaçait, on a l'impression de voir un papy, il manquait plus que le déambulateur.
Alors que pourtant, la section musicale est toujours, toujours excellente, et le batteur qu'ils avaient pris pour la tournée, Tommy Clifetos, il apportait un coup de jeune, et ça s'est dû bien voir.
En tout cas, on avait un petit peu peur lorsque l'album 13 a été annoncé, et c'est un bel album. Qu'on aime beaucoup, c'est d'ailleurs de cet album qu'on va extraire et écouter un titre. Allez, Black Sabbath qui lui a fait ses adieux, le titre Peace of Mind, extrait de l'album 13. Réédition pour continuer, une réédition d'un album de Monsieur Sir Paul McCartney. Tu connais Damien, je suppose.
Un peu, oui.
Alors, dans les années 80, après les Beatles, Paul McCartney n'a pas fait que de super albums. Hein. Mais là, pour le coup, cette réédition, c'est une réédition qu'on attendait depuis longtemps. Il s'agit de l'album Flowers in the Dirt. Cet album tenait la route déjà à l'époque, surtout parce que le Sir Paul s'était fait assister de pas mal de monde, et en particulier de notre Elvis Costello préféré. Donc réédition du Flowers in the Dirt de Paul McCartney, avec un CD bonus, et le CD bonus, je te le donne en mille, il contient toutes les démos chantées à la fois par Maca et par Costello. Donc précipitez-vous, achetez que le CD bonus s'il le faut, mais c'est ça qu'il nous faut. On écoute McCartney et Costello, My Brave Face, c'est une démo, et waouh, si seulement c'était toujours comme ça chez McCartney.
I've been living in style, unaccustomed as I am to the luxury life. I've been living in the town and it didn't hit back. I've been doing the rounds, unaccustomed. Sentimental inclination not to change a single thing. As I pull the sheets back from the bed, I wanna go bury my head in your pillow. Trying to compose a baby, will you please come home note meant for you. As I clear away another untouched TV dinner from the table, I lay for two. Now that I'm alone again, I can't stop breaking down again. The simplest things set me up again and take me to that place.
Champ libre, le favori.
Le favori de l'émission, c'est toujours le dernier album de Grand Daddy, son titre Last Place, le morceau d'aujourd'hui, Check Engine. Check engine, check engine, check engine, check engine, check engine. Vous êtes toujours dans Champ Libre sur les ondes de Couleur FM et Damien, c'est à toi.
Et oui, chers auditeurs, mauvaise nouvelle. Aux États-Unis, un Afro-Américain a 2,5 fois plus de chances d'être tué par la police qu'un autre citoyen. Face à ce constat effrayant, effarant, le rappeur Ice-T a décidé de ressortir les armes. Parallèlement à sa carrière de rappeur, il est le frontman du groupe de métal Body Count, déjà remarqué en 1992 pour son titre Cop Killer, tueur de flics, qui dénonçait les violences policières et avait fait scandale dans une Amérique encore marquée par le fuck the police de NWA. À l'heure des Trayvon Martin et des Michael Brown, Body Count revient avec un nouvel album, Bloodlust, accompagné de quelques amis, comme le montre All Love Is Lost, featuring Max Cavalera.
I thought you were my friend. I gave you my trust. I would have died for you. Then the second I turned my back, you fucked me over.
All love is lost.
Now you have the nerve to tell me you're sorry.
All love is lost.
You gotta be out of your motherfucking mind.
All love is lost.
You never loved me. You never fucking did.
All love is lost.
You betrayed me, that is the fucking end.
All love is lost.
I don't give a fuck about what you do with your life. I don't give a fuck about what you do with your life. I don't give a fuck about what you do with your life. I don't give a fuck about what you do with your life. I don't give a fuck about you. You can fucking die. I could fucking care less when you fucking cry. My heart's so cold. You left a broken soul. You destroyed everything I thought was true. And now you talk shit, cause I don't give a fuck. And now I'm long gone, focus on you. I don't care where you are, don't care what you do. You say you hate me, cool, I fucking hate you.
Motherfucker with no honor. Kind of motherfucker with no loyalty. Motherfucker you can't trust. Cross me and then you want another chance.
One strike and I don't care about your fucking life. You're not no friend to me. You're fucking dead to me. Don't give a fuck about the shit that you was going through. You did some shit to me that I could never do to you. Cross, I'm not no fake chump. I'm not no punk bitch. You're lucky I ain't put your red ass in some dark ditch. And now you want some type of sympathy from me now. If you were stabbed on the floor, I'd watch you bleed out.
Rage is for you, I unleash. I'll write the apocalypse.
Le premier titre, Civil War, annonce la couleur. Ambiance paranoïaque, musique saccadée, Ice-T dresse le bilan d'une Amérique qui a élu Donald Trump, soutenu au refrain par le chant guttural de Dave Mustaine, chanteur de Megadeth. Énorme claque, The Ski Mask Way explique la pochette de l'album qui représente un homme cagoulé et armé, avec une instrumentale impeccable et un refrain percutant. Ice-T est énervé et il le fait savoir avec This Is Why We Ride, une chanson paradoxalement plus calme, plus longue, sans doute la plus autobiographique, qui serait parfaite en ouverture d'un éventuel biopic, et qui raconte finalement la, la vie de quelqu'un qui a grandi dans les ghettos de Los Angeles, qui a connu la même chose que les membres du groupe NWA, et qui ose se dresser contre cette société qui a essayé de l'écraser. On l'écoute à l'instant, All Love Is Lost est porté par Max Cavalera, ancien chanteur de Sepultura dont on chroniquait l'album il y a 2 mois. Sans lien avec l'actualité pour une fois, la chanson accorde bien son texte, rempli de haine, et sa musique, rouleau compresseur pour les oreilles. Même si Ice-T est un rappeur, Body Count est un groupe de métal, preuve en est avec cette reprise du Raining Blood Ravageur de Slayer, précédée d'un extrait d'interview où Ice-T déclare son amour pour le groupe. Après tout, qu'on soit en 1986, sortie de la chanson ou en 2017, le rap et le métal sont des genres qui dérangent. On s'offre un peu de repos avec God Please Believe Me, morceau parlé d'une minute trente et demie, sur simple fond de guitare. L'accalmie est cependant de courte durée, puisque le renfort arrive en la personne de Randy Bleef, chanteur de Lamb of God, qui s'invite sur Walk With Me. Ici, point de rap comme ça a pu être le cas sur d'autres morceaux, il s'agit d'une chanson de métal, une vraie, dans la plus pure tradition des groupes de thrash. Solo de guitare héros, batterie inépuisable et voix bien enragée, au pluriel s'il vous plaît. Dans cette même lancée, Here I Go Again, efficace, pas vraiment mémorable, mais bénéficiant d'une ambiance sombre et inquiétante, qui installe un climat anxiogène, propice à l'introduction de la chanson suivante, No Lives Matter. Point d'orgue du disque, qu'on écoutera dans quelques instants, Ice-T fait le constat amer des mouvements tels que Black Lives Matter, avec un nihilisme rare. En commençant la chanson par un discours engagé, il pose la raison d'être du disque, poussé à la révolte. Le clip, en noir et blanc, fait défiler des statistiques sur les violences policières avec une sobriété qui fait parler les chiffres d'eux-mêmes. Bloodlust, qui donne son titre à l'album, s'intéresse à la nature humaine, assoiffée de sang et de destruction, avec une musique qui va si vite qu'elle laisse rarement le temps de respirer. On aurait tout de même aimé un peu plus d'agressivité, mais le reste du disque nous en donne, il faut l'avouer. Enfin, pour le clore, le disque, Ice-T se veut pessimiste quant au futur avec Black Hoodie. Rien n'a changé depuis le premier album, rien n'aura changé quand sortira le dernier. Alors je dis souvent qu'une musique ne peut pas être sauvée si elle est mauvaise, peu importe le message qu'elle transmet. Mais ce n'est pas le cas avec ce Bloodlust de Body Count. Musicalement, c'est un bon album de métal, efficace mais sans surprise, et donc sa vraie force réside dans la rage d'Ice-T, intacte, depuis 20 ans, et elle seule un instrument de musique. En résulte un très bon disque, dommage qu'il soit la conséquence de ce merdier.
It's unfortunate that we even have to say Black Lives Matter. I mean, if you go through history, nobody ever gave a fuck. I mean, you can kill black people in the street. Nobody goes to jail. Nobody goes to prison. But when I say Black Lives Matter and you say All Lives Matter, that's like if I was to say Gay Lives Matter and you say All Lives Matter. If I said Women's Lives Matter and you say All Lives Matter, you're diluting what I'm saying. You're diluting the issue. The issue isn't about everybody. It's about black lives at the moment. But the truth of the matter is, they don't really give a fuck about anybody if you break the shit all the way down to the low fucking dirty ass truth.
We say that black lives matter, but truthfully they really never have. No one ever really gave a fuck. Just read your bullshit history books. But honestly, it ain't just black. It's yellow, it's brown, it's red. It's anyone who ain't got cash. Poor whites that they call trash.
We realize we're all on the same side. They can't split us up and let them prosper off the divide. out of their cars in the neighborhood because they know they got lawyers. They know they'll sue their ass. They can tell who the fuck with. Unfortunately, black or brown skin has always meant poor. They profiling you, kid. They know you can't fight back, but we about to.
Investigators say they are reviewing body camera and dash cam video of Tuesday's shooting. Police say that Keith Lamont Scott did have a gun in his hand when an officer shot him. A new picture of the scene shows something in Scott's teeth. A source tells our Charlotte affiliate it may be a gun, but people in the neighborhood say that the father of four was holding a book instead.
Officer Vincent was in plain clothes when the shooting happened. He was not wearing a body-worn camera, but we are told that three other officers wore theirs. The department is under increasing pressure to release police videos from the shooting, but the police chief says he will not do that right now because of the investigation.
Don't fall for the bait and switch! Racism is real, but not it! They fuck whoever can't fight back! But now we gotta change all that! The people have had enough! Right now it's them against us! This shit is ugly to the core! When it comes to the poor, no lives matter! This shit is ugly to the core! When it comes to the poor!
C'était le disque du mois présenté par Damien.
Oui, donc je rappelle Body Count, Bloodlust, et le morceau que vous venez d'écouter, c'était No Lives Matter.
Et ça fait du bien par où ça passe, les oreilles. Et ce qui est entre les deux oreilles aussi, c'est intéressant. Il faudrait pouvoir traduire les textes en direct. On passe de la musique à l'écrit.
Autant d'écrits, il vient d'en avoir.
Oui, ça va se... Ça va te faire sourire, Damien, mais j'ai l'impression que tous les ans, j'ai mes petites marottes. Alors, dans les bouquins que je voudrais vous présenter, vous faire lire ce mois-ci, en tête de gondole, le nouveau Philippe Djian, qui s'appelle Marlène, toujours chez Gallimard. Alors, que dire de ce Marlène de Djian ? Eh bien, Marlène, ça raconte l'histoire de deux soldats de retour chez eux. Les soldats s'appellent Dan et Richard. Ils rentrent d'un pays en guerre. Et l'homme que l'armée lui avait rendu n'était pas celui qu'elle avait connu, pense la copine de l'un des deux soldats. Alors, ce qui s'est passé là-bas, on ne sait pas où c'est, hein, mais ce qui s'est passé là-bas, c'est pas le propos de Philippe Djian. Il a déclaré à l'AFP il y a quelques semaines ce qui se passe au Yémen, en Irak et en Afghanistan. Moi, je fais pas la différence en tant qu'auteur. En fait, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est l'état dans lequel les mecs qui y vont reviennent. Les paroles d'un jeune soldat américain qui peinait à se réadapter ont marqué Djian. Le soldat américain disait: il y a un mois, j'avais des engins high-tech entre les mains qui valaient des millions de dollars et aujourd'hui, on ne veut même pas me confier un manche à balai pour me réinsérer. Voilà, c'est à partir de ça que Djian construit son roman qui s'appelle Marlène. L'un des soldats veut reprendre le cours d'une vie normale, l'autre, lui, s'y refuse et Djian pose la question de la normalité. C'est l'interrogation de ce roman. Qu'est-ce que la normalité ? Est-ce que la normalité, c'est la femme à moitié folle, Marlène, à côté de l'un des protagonistes ? Ou est-ce que c'est le type au regard vide, assis au comptoir du bar et qui regarde la télé ? Djian nous explique que la normalité, c'est une prison mentale et que dans cette société-là, on est un petit peu tous des zombies. Djian nous explique que ces influences, il faut aller les chercher du côté de la littérature américaine. Il nous rappelle que lorsqu'il avait 20 ans, il lisait les auteurs de la Beat Generation, Kerouac, Brotigan, dont on a parlé plusieurs fois dans cette émission. Et encore une fois, Philippe Djian, c'est peut-être l'auteur francophone le plus américain de tous. En plus, son avant-dernier roman a cartonné au cinéma, puisque le fameux Elle
De Paul Verhoeven.
De Paul Verhoeven est un excellent film et qu'il a du succès. Voilà, premier donc de ces livres du mois, le Philippe Djian, Marlène, chez Gallimard. Autre chose qui te fait sourire, Damien, le nouveau Joyce Carol Oates.
Pour
et
changer.
Oui, elle écrit aussi vite que... Voilà, donc le nouveau Joyce Carol Oates, il est un peu moins pec d'habitude, il s'appelle Valet de Pique. Et il raconte quoi ? Andrew G. Rush est un écrivain américain de 50 ans. C'est le personnage principal du roman. Il est renommé pour ses romans policiers et il vit paisiblement dans une petite ville du New Jersey. C'est amusant parce que dans ce roman, Joyce Carol Oates décrit son écrivain de sujet, là, de personnage principal, comme un Stephen King du pauvre. Et sans arrêt, cet écrivain se compare au succès de Stephen King, à l'argent que peut gagner Stephen King, aux problèmes qu'a eu Stephen King, etc., etc. Donc c'est assez amusant de voir ces petits clins d'œil à un autre auteur célèbre, lui, de la littérature américaine. En tout cas, notre Andrew Rush semble serein. Il publie de nouveaux livres, ça devient des best-sellers. Mais Andrew, l'auteur, dissimule une autre facette de sa personnalité. Il signe, sous le pseudonyme Valet de Pique, des romans beaucoup plus sombres, beaucoup plus terrifiants, et dans lesquels la perversité a droit de citer. Personne ne sait qui est le Valet de Pique, ni sa famille, ni sa fille, ni son éditeur, ni son épouse. Personne ne sait. Et puis, eh ben, il y a le petit truc. Cet édifice fragile va être rompu par une femme qui dépose une plainte et accuse l'auteur de plagiat. Donc notre Andrew tombe des nues et nous, lecteurs, on va assister à la plongée en eau trouble de cet auteur et à la lente remontée à la surface de la folie qui était là en permanence depuis le début, mais bien cachée par le succès de cet écrivain renommé. Voilà, je vous en raconte pas plus, c'est du Joyce Carol Oates, c'est-à-dire que c'est en général assez psychologiquement brutal, mais je reste sur le cul chaque fois que je termine un Joyce Carol Oates, et j'ai un peu honte lorsque je dis à mes auditeurs, précipitez-vous, parce que j'ai l'impression de faire partie de l'équipe de promo de cette grande auteure américaine.
Non, tu crois ?
Non. Dernier livre que je vous conseille, là on rejoint la musique. Chez Castor Music, on vient enfin de traduire, il y a quelques semaines, le livre de Ray Davies, chanteur des Kinks. Ce livre s'appelle Americana, sous-titre Les Kinks, la route, le riff parfait. C'est un bouquin super bien écrit. C'est pas un roman et c'est pas une biographie. Et il y a un peu des deux. Et c'est un livre dans lequel Ray Davies, qui écrit donc super bien les chansons, mais qui écrit très bien en tant qu'écrivain, rend un moche à l'Amérique. Et pourtant, l'Amérique, c'est un pays qui avait banni les Kinks en 65, avant de finir par les acclamer en 70. Donc Ray Davies nous explique que pendant la moitié de sa vie, il a fait tout ce qu'il pouvait pour remonter la pente, puisqu'un groupe de rock qui voulait survivre à l'époque, où il n'y avait pas Internet, MTV, etc., il fallait absolument tourner aux États-Unis, passer sur les grandes chaînes de télé et chaînes de radio. Et il se trouve que les frangins Davis avaient trouvé le moyen de se faire remarquer lors des premiers concerts américains. En particulier à Cardiff, il y avait eu une bagarre mémorable sur scène entre le petit frère Davis, Dave, et le batteur Mick Avory, et ça leur avait valu de ne plus avoir aucun concert ni aucune tournée là-bas aux USA. Quelques années plus tard, à force de travail, ils vont revenir et ils vont avoir du succès. Voilà, c'est ce que nous raconte Ray Davies dans ce livre, Americana. Et il nous explique que par rapport aux autres groupes anglais qui ont cartonné aux USA, les Beatles, les Stones, etc., les Kings avaient quelque chose de particulier. Ce quelque chose de particulier, c'est qu'ils ont toujours, eux, Kings, chanté avec l'accent anglais et qu'ils ont toujours conservé cette culture anglaise, alors que les autres groupes regardaient du côté des USA pour essayer de vivre le rêve américain. Voilà, donc Americana de Ray Davies au Castor Music. Et puis en plus, Damien, Ray Davies, c'est dans l'actualité, parce que le bouquin Americana, donc on vient d'en parler, mais après-demain,
il va être accompagné d'un disque.
Un disque qui s'appelle Americana aussi, qui serait, paraît-il, le premier d'une série de deux, qui, paraît-il, est excellent comme album. Et j'en suis sûr, puisque Ray Davies, c'est peut-être le plus grand auteur-compositeur de cette génération-là. C'est pas moi qui le dis, c'est un dénommé John Lennon qui disait « Si un jour il y a un cinquième Beatle, ça sera lui, Ray Davies. » Et pourquoi il va être bien ce nouvel album Americana dont on parlera la semaine prochaine dans Champ Libre? Tout simplement parce que les musiciens qui accompagnent Ray Davies, ce ne sont rien de moins que les Jayhawks, qui est un des meilleurs groupes américains dont on vous parle très régulièrement dans cette émission. Voilà, pour les bouquins, donc je répète, Joyce Carol Oates, Valet de Pique, chez Philippe Ray, Philippe Jean, Marlène, chez Gallimard, et Ray Davies, Americana, chez Castor Music. On se retrouve le mois prochain.
Toujours fidèle au poste.
Pour un nouveau disque métallique. Je pense que Joe sera là pour nous parler de cinéma. Laurent s'occupera bien sûr de la technique et on va souhaiter une bonne soirée à nos auditeurs en écoutant un titre du dernier album de King Gizzard and the Lizard Wizard. L'album s'appelle toujours Flying Microtonal Banana. Ça ne s'invente pas. C'est un des nombreux disques que le groupe va sortir cette année. Le titre du morceau Melting. Eh ben, je m'arrête là. Bonne soirée.
Bonne soirée.